Bruxelles. Un soir où la réalité se délite dans les méandres de l'histoire et de la mémoire. Les maisons des corporations, l'hôtel de ville et la maison du roi baignées de lumière semblent surgir d'un songe ancien. Sur les bords d'une des plus belles places du monde, la foule est massée dans des gradins spécialement dressés pour l'occasion. Ils sont des milliers à se mouvoir avec impatience face aux tribunes, sur les pavés. C'est le 16e siècle bruxellois qui s'exprime en plein. Plus d'un millier de tenues colorées, chatoyantes, semblent tout droit sorties des châteaux de la Renaissance. Il n'en est rien. Bruxelles, en réalité, est en train de vivre la première soirée d'un des moments les plus attendus de l'année, l'Omegang. Comme à l'accoutumée, Charles Quint est au centre de toutes les attentions, lui dont on reconstitue la venue en 1549. Les chars, les chevaux, les arbalétriers, il ne manque rien. Et pourtant, depuis quelques instants, la fresque vivante s'est figée, comme absorbée, elle aussi, par un événement particulier. La grande horloge du temps semble s'être arrêtée, victime d'un mauvais coup de chronos. Le moment suspendu se délite lorsqu'une femme, vêtue de vert à la manière d'une dame de cour des temps anciens, s'avance face au public. La foule, dans une clameur généralisée, l'accueille. Cette femme s'appelle Annie Cordy. Et alors qu'elle célèbre son 90e anniversaire, la star de l'Omegang cette année, c'est elle. Nous sommes le 5 juillet 2018. Il est un peu plus de 21h et c'est l'heure H de mon histoire. La chanteuse belge adorée de tous, un parchemin qu'elle déroule en tremblant. Avant même de commencer à lire, Annie Cordy est très émue. Accompagnée de sa nièce, elle remet les pieds dans l'un des lieux marquants de son enfance. Et c'est avec une voix un peu tremblante qu'elle prend la parole.
La grande place est depuis toujours inscrite dans ma mémoire. Ma maman, qui tenait une petite épicerie, m'y amenait pour acheter ses légumes très tôt le matin. Quelquefois 5 heures. Oh, j'ai bien d'autres souvenirs dans la tête, mais il nous faudrait quelques heures.
Oh, la star est fragile. Comment ne pas la comprendre ? L'Omegang, tel un phénix, a connu une renaissance fabuleuse, extraordinaire, alors que la chanteuse venait de fêter ses 2 ans. Ce soir, c'est à elle que revient l'honneur de lancer les festivités. Un grand moment dans une carrière mythique. Autour d'elle, les figurants commencent à prendre place. Le cortège, cette année, redouble de beauté et de féerie. Annie Cordy, alors qu'elle peine à reprendre le dessus sur ses vives émotions, contemple la place drapée de ses plus beaux atours. Son discours se termine et l'histoire reprend sa marche. Le silence s'impose dans l'air et la joyeuse entrée de Charles Quint peut débuter. Les lancers de drapeaux, l'un des moments forts du show, indiquent le commencement de la procession. Le défilé est marqué par de nombreux moments forts. Sur les pavés, les fers des chevaux font un tatamar ahurissant qui replonge les spectateurs dans le monde d'antan. Des échasseurs et des géants viennent ponctuer une atmosphère empreinte de magie. Parmi ceux-ci, le dragon de Saint-Georges, grand de plus de 4 mètres. Cordy, portée par ce moment unique, a les yeux qui brillent. Elle se revoit là, petite fille, durant ce temps béni de l'enfance. La chanteuse assiste émerveillée au lâcher de colombes rituelles. La musique entraînante participe à transporter la foule au cœur de l'histoire. Des jeux de lumière intenses baignent les bâtiments historiques de la belle bruxelloise. Pourtant, alors que le spectacle s'achève, le beau temps se fait la malle. De grosses gouttes de pluie s'écrasent sur les costumes et les croupes des chevaux. Il est 23h, lorsqu'un feu d'artifice extraordinaire ponctue cette soirée. Annie Cordy, dans l'obscurité, est subjuguée par les figurants, qui lui paraissent être des ombres du passé. C'est cela l'Omegang, un moment magique, suspendu, qui brouille les frontières entre le passé et le présent. il paraît particulièrement séculaire. La procession est marquée du sceau d'un héritage ancestral qui débute au creux des méandres des temps anciens. L'empereur du Saint-Empire, Charles Quint, est bien placé pour le savoir. 1549, Bruxelles. Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire, dans toute sa splendeur, s'avance. Le souverain est accompagné de son fils, qu'il vient présenter à la ville de Bruxelles, l'une des places fortes de son immense territoire. Un signe honore que cette visite impériale qui a lieu au moment de l'Omegang. La procession, dès lors, revêt ses plus impressionnantes draperies. Au départ de ce grand moment, la statue de la Vierge, vénérée depuis des siècles, quitte son refuge du sablon. Les lignages et les arbalétriers l'encadrent jusqu'à la place de la vieille halle au blé. Depuis l'hôtel de ville, l'empereur entend les clameurs et les vivats du cortège qui se forment. Via la rue du Chêne, puis celle de l'Étuve, voilà que la mythique procession arrive à la grande place, immense, drapée avec richesse. Le président du grand serment des arbalétriers explique en 1981 le déroulé de la procession de l'époque qui reste jusqu'à nos jours inchangé.
Robert Lomegang se compose actuellement en trois séquences. La première, c'est l'entrée de la cour de Charles Quint, qui comprend donc le magistrat qui invite Charles Quint et la régente. La deuxième séquence, c'est, disons, magistrat, régente, Charles Quint. Charles Quint se met en place et devient spectateur. Et donc, en 1549, on offrait des réjouissances à Charles Quint. Qu'est-ce qu'on lui offrait? Des manifestations de groupes folkloriques, des danses, des combats. Charles Quint adorait beaucoup les combats. Et deuxième partie terminée, on commence alors avec la troisième partie qui est le cortège historique de Lomegang qui lui a été reconstitué le plus fidèlement possible. Qui d'antan partait du sablon, qui pendant toute une série d'années ne se formait ici dans les coulisses de Lomegang, parce que les coulisses de Lomegang, c'est la ville, ce sont les rues, c'est la rue de la Bigot, c'est la rue des Dors, c'est la rue des Brasseurs. Enfin, nous mobilisons tout ici.
Ici, les escrimeurs en blanc et bleu, là, les archers en blanc, rouge et noir. Ces troupes et d'autres précèdent la grande cavalcade. Dressée sur leur monture, la jeunesse bourgeoise de Bruxelles salue Charles Quint. Porte-bannière, page, chacun de ces jeunes gens semble prêt à partir à la guerre, drapé d'armures reflétant la richesse de leurs familles respectives. Viennent ensuite les corporations, et les magistrats, ainsi que les représentants des institutions de la cité. Mais cette procession officielle n'est qu'une étape. Suit un cortège de divertissement, où la pucelle de Bruxelles est la star. Elle est encadrée par des chars, des jongleurs, des enfants grimés en figures diaboliques d'animaux, du cheval Bayard ou d'autres représentations légendaires. Le magistrat, accompagné des membres des lignages, précède le cortège de la Vierge, composé des figures ecclésiastiques. Tout un programme. Alors que le jour décline, un grand banquet s'organise sur la grande place. Il regroupe toutes les forces vives de cette tradition comme aucune autre. L'empereur et son fils, au soir de cette incroyable journée, sont absolument subjugués. Comment pourraient-ils ne pas l'être ? Lomegang est une formidable démonstration de richesse, de pouvoir et d'honneur. Une interview qui date de 1979 nous plonge dans les coulisses très amusantes de Lomegang.
Les gens qui figurent ces personnages ici sont aussi de la noblesse.
C'est de la noblesse.
D'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, mais en général descendant des personnages historiques qui figurent.
Ça fait combien de personnes tout ça ensemble?
La noblesse ici sont à 118 plus 25 pages et le reste est à 875 personnes.
Qui sont des figurants?
Oui.
Et si par exemple quelqu'un fait aujourd'hui, je ne sais pas moi, un adjoint de Charles Quint et l'année prochaine il est rétrogradé, il en conçoit une certaine amertume?
Non. Tout ça se fait plein de bonne volonté. En général, on ne rétrograde jamais dans le moyen qu'on fait qu'avancer. On commence par damoiseaux et damoiselles et puis rentre dans la cour de Charles Quint. Et pour finir, se rapproche de plus en plus de Charles Quint sur le podium. Et ceux qui ont le plus d'ancienneté, en général, sont presque devant la porte, devant le trône de Charles Quint.
cette magnifique fête. Il ne faut surtout pas l'éluder, est aussi un message politique envoyé à l'empereur. Et il est un peu plus clair. La ville dispose de ses traditions et de ses libertés propres. Elle se meut depuis longtemps dans une forme d'indépendance unique, que le Saint-Empire ne doit pas tenter d'étouffer. Au fond, cet Homme Gang de 1549 est une formidable démonstration de puissance. Les présents l'ignorent. Mais la procession connaît là son apogée. Cet âge d'or, bientôt, sera révolu. L'Homme Gang, dans toute sa sécularité, est une institution vieille de plusieurs siècles. Ses origines connues, historiques, se mêlent aussi avec la légende. En 1348, Anvers est l'une des villes les plus riches du continent. Son apogée viendra plus tard, mais son expansion déjà est bien réelle. Béatrice Soutkens est une femme connue dans certains quartiers de la ville pour sa dévotion et sa propension à entrer en contact avec les saints. Une nuit de tempête, la femme pieuse est prise d'une révélation. La Vierge lui apparaît, vêtue de blanc, dans un halo de lumière. Ni une ni deux, au beau milieu de l'obscurité totale, la femme sort de chez elle et s'empresse de rejoindre son église habituelle. Sur l'autel, la même statue de Marie portant l'enfant Jésus trône depuis toujours. Notre-Dame à la branche, c'est son nom, accompagne la croyante depuis ses plus jeunes années lors de ses dévotions. La statuette sacrée est chérie et adulée. Mais ce soir, au cœur de la nuit, Béatrice, après s'être agenouillée devant elle, l'attrape et part en courant. Dans l'édifice, le sacristain, témoin de la scène, reste ébahi avant de partir à la poursuite de la voleuse. Dans les rues étroites de la cité anversoise, elle manque d'être reprise. Alors que l'homme religieux s'apprête à la coincer, Béatrice se retourne, tend ses bras vers le ciel et en appelle au secours divin. Soudain, le sacristain se retrouve paralysé, incapable de bouger. Ce qui permet à la fuyarde de reprendre sa route et de monter dans un bateau. La direction ? Bruxelles. C'est ce que la Vierge Marie lui a demandé de faire. Mécontente du traitement de son icône à Anvers, elle a demandé à la femme la plus pieuse de l'église de la transporter jusqu'à la cité bruxelloise. À l'époque, le trajet dure plusieurs jours et est semé d'embûches naturelles. Lorsqu'enfin Béatrice arrive au cœur de la ville, son histoire l'a précédée. Les arbalétriers, à l'exercice, découvrent sur les eaux cette barque surmontée d'anges et d'apparitions diverses. On raconte même que Béatrice est reçue en grande pompe par le duc Jean III et son fils. La statue de la Vierge, considérée comme miraculeuse, est placée dans la chapelle du Sablon. Cet événement, qui se déroule le dimanche avant la Pentecôte, donne lieu à une procession qui va revenir tous les ans. L'Homme Gang est né. Ce qui, au départ, n'était qu'un événement processionnaire comme un autre, devient bientôt une véritable institution. Année après année, sans que l'on connaisse véritablement la raison, l'Homme Gang permet à Bruxelles de devenir « the place to be » le temps d'une fête. Pour preuve, cette année de 1549, dont nous venons de parler et qui se déroule en présence de l'empereur Charles Quint. Cependant, la situation politique dans les Pays-Bas espagnols devient très tendue à compter de ce milieu du XVIe siècle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette instabilité va s'installer dans le temps. Parmi les victimes collatérales des conflits et des heurts qui touchent la Belgique actuelle figure l'Homme Gang. La grande procession perd de sa superbe. Année après année, elle est moins garnie de personnalités, moins belle. Bientôt, c'est même la catastrophe. Les protestants, qui dans le contexte des guerres de religion s'emparent de la cité à la fin du XVIe siècle, décident de supprimer purement et simplement l'Homme Gang entre 1580 et 1585. Oh, certes, l'événement survit malgré ses tentatives de censure, mais il faut bien le dire. Hormis quelques rebonds épars, notamment en 1615, lors de la venue d'Albert et Isabelle de Habsbourg, la verve ne reprend pas. Les banquets donnés sur la Grand Place ne sont plus systématiques. Les démonstrations, autrefois spectaculaires, sont loin de faire l'unanimité. Et l'intérêt des habitants de Bruxelles pour le Megang chute. Il faut se rendre à l'évidence. L'avenir de la procession est en danger. Il faut dire que la ville de Bruxelles se retrouve au cœur d'événements historiques majeurs qui bousculent son équilibre. Comment ne pas penser au bombardement qu'elle subit en août 1695 de la part du roi Soleil ? Les troupes de Louis XIV ne sont pas les seules à se jeter sur elle et durablement, les heurts s'installent. Tant et si bien qu'en 1785, un Omegang bien différent de ceux d'antan marque la fin d'une époque. Cette ultime édition met un terme à l'agonie de ce grand moment de la vie bruxelloise. L'histoire ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. La Révolution française, qui éclate en 1789, entraîne le rattachement de la ville et d'une bonne partie des territoires belges actuels à la France. Sous le règne d'un certain Napoléon Ier, Bruxelles se retrouve plongée au cœur d'un tourbillon guerrier qui dure, sans presque aucune interruption, pendant 15 ans. La bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, a lieu à quelques kilomètres de ses portes. Le pays obtient son indépendance en 1830, à la suite d'une révolution menée tambour battant. Mais le retour de l'Omegang n'est pas pour autant à l'ordre du jour. Crise économique, nouveaux troubles, Première Guerre mondiale. Malgré la parenthèse enchantée de l'expansion industrielle durant laquelle il devient la quatrième puissance mondiale, le royaume, comme l'Europe, subit de nombreux contre-coups. Il va falloir attendre le centenaire de la Belgique pour que la renaissance de l'Omegang soit envisagée. Et il va enfin renaître de ses cendres.
Souveraine du Royaume-Uni et chef du Commonwealth, et du prince Philippe, duc d'Édimbourg, son mari.
Bruxelles, mai 1966. Le duc d'Édimbourg, sa femme, la reine Élisabeth II d'Angleterre, ainsi que la délégation qui l'accompagne, sont présents sur le sol national pendant quelques jours. Leur séjour s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle. Et ce qu'ils s'apprêtent à vivre sort totalement de l'ordinaire. Le but de leur voyage, commémorer le 21e anniversaire marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, cela est bien tombé. Les autorités belges ont proposé au palais de Buckingham que la reine puisse assister à l'Omegang. Depuis 1930, on assiste à un renouveau de l'événement. Pour célébrer le centenaire de l'existence de la Belgique, ce symbole culturel est sorti de l'ombre. La foule a le regard tourné vers le couple royal. Leur arrivée dans le centre-ville s'est conjuguée d'une liesse populaire absolument incroyable. La tenue de la reine, turquoise, surmontée d'un chapeau de soie, fait beaucoup d'effet. Quelle ne fut pas sa surprise, en se dirigeant vers les portes de l'hôtel de ville, d'avoir comme comité d'accueil des soldats des temps anciens. Comme sortis des pages des livres d'histoire, ces hommes s'inclinent devant elle avec respect. En grande tenue, bardée de médailles et de cordons, le prince consort d'Angleterre se croit presque à la parade. Mais il n'en est rien. Le couple royal, en revanche, s'apprête à vivre un moment hors du temps. Une immersion, en somme, au cœur de l'histoire. La souveraine anglaise est suivie par un baudouin amusé, toujours ravi d'assister à ce cérémonial particulier. Le protocole et les présentations officielles prennent un temps fou, mais leur tourne. Le bourgmestre prend la parole et on sent bien la solennité du moment dans son discours.
Si c'est avec fierté que je montrerai dans un instant à votre majesté la signature de son illustre aïeul, la reine Victoria, et de son Altesse royale, le prince Albert, le 18 septembre 1843, la première signature de ce livre, après celle de notre roi Léopold Ier, ce n'est qu'en 1922, le 10 mai, que nous enregistrons les signatures du roi Georges V et de la reine Mary aux Augustes grands-parents. Aujourd'hui, 44 ans après, nous avons l'honneur et la fierté d'accueillir Votre Majesté et Votre Altesse Royale. Lorsqu'elles apparaîtront au balcon de notre hôtel de ville, en compagnie de nos souverains et des princes de Liège, tous ceux qui, de la grande place, auront le privilège de les contempler, se rendront compte qu'ils participent à un événement historique exceptionnel qui restera gravé dans leur mémoire avec le relief d'un fait légendaire. Quant aux mandataires de cette ville, ils espèrent que Votre Majesté acceptera ces pièces de dentelle de Bruxelles en souvenir de cette journée qui sera pour eux inoubliable.
Vite après ce bref discours, il faut aller dans la salle gothique, pleine de monde. Là encore, la présence d'arbalétriers et autres figures sorties du royaume de Cronos interpelle la délégation britannique. Elle tombe en pamoison, rebelote dans la salle des mariages. Chaque fois, des applaudissements nourris accueillent Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Le clou du spectacle a lieu sur le balcon. Là où s'est tenu l'empereur Charles Quint il y a des centaines d'années, la reine Élisabeth découvre l'ampleur de la tradition de l'Homegang. Alors que se massent les ornements et les étendards, une fresque historique se déroule sous ses yeux. Ce l'ombre au tableau, malgré le printemps bien avancé, le temps n'est pas de la partie.
Et comme par un fait exprès, voilà qu'un rayon de soleil inonde la place. Ah, toi, soleil, sans qui les choses ne seraient pas ce qu'elles sont.